Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir à la station Ozone de chez Mola pour accueillir donc Jean-Michel Fauvergue, d'une part, qui a été patron du RAID de 2013 à 2017 et qui aujourd'hui est député République En Marche de Seine-et-Marne, où il suit notamment les problèmes de police, mais pas seulement, évidemment. Et puis, en face de moi, donc, Caroline de Juglar, qui est la co-auteure du livre d'entretien pour lequel nous sommes réunis ce soir, que je vous montre ici, qui est paru déjà en octobre. Caroline, qui est journaliste à M6 et qui, sans prétention, a peut-être appris son métier au sein du groupe Sud-Ouest, donc, parce qu'elle a des attaches régionales, notamment au Pays Basque. Donc voilà, on est content d'accueillir une consoeur talentueuse et qui a donc réussi à convaincre Jean-Michel Fauvergue de répondre à ses questions, puisqu'on va le voir, c'était pas facile de se voir avec l'actualité. Donc Jean-Michel Fauvergue, prenez votre micro. Donc comment est-ce que c'est né l'idée de ce livre? Racontez-nous un peu la genèse. Au départ, c'est une idée de Caroline, hein, c'est elle qui vous sollicite.
Bon, tout d'abord, bonsoir. Je vais répondre à votre question, mais il y a quand même quelque chose qui a changé dans ma vie, parce que avant, quand je rentrais dans une salle comme ça, suivie d'une trentaine de copains en tenue noire derrière, les gens partaient. Maintenant, ils restent.
Oui, maintenant, voilà. C'est ça.
Voilà, ça c'est.
Restez, hein, surtout.
Alors non, c'est pas Caroline qui est venue me chercher, c'est moi qui suis allé chercher Caroline, qui au départ cherchait un journaliste ou une journaliste qui pouvait relater tout ça. Et le choix s'est porté sur Caroline parce qu'il y a une émission sur M6, elle est à M6 maintenant, il y a une émission qu'elle avait organisée avec les journalistes de M6. Ah, c'était pas une émission, c'était une rencontre avec les journalistes de M6 que vous pouvez voir sur la chaîne, et sur lesquels on a parlé de Vincennes, de la prise d'otage de Vincennes, de l'évolution de la menace, etc., etc. Et c'était avant le Bataclan. Et l'idée de faire ce livre me trottait dans la tête depuis quelque temps. Et Caroline a bien voulu y participer et me canaliser.
Oui, vous canaliser, ça va. On sent que vous êtes assez calme. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le premier entretien doit se dérouler le jour du Bataclan, en fait. Donc, c'est évidemment, comme le précise Caroline, l'entretien est remis à plus tard, puisqu'évidemment, vous êtes sollicité sur le Bataclan. Alors, on y reviendra peut-être. Ce qu'il faut d'ores et déjà dire, c'est que vous, en tant que patron du RAID, et vous l'expliquez dans le livre, donc le RAID, l'unité la plus prestigieuse de la police nationale, vous êtes le patron qui avait été le plus confronté au terrorisme, hein, pendant les 4 ans où vous avez dirigé cette unité. On l'a dit, hein, Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, Saint-Étienne-du-Rouvray, Magnanville, Nice. Donc voilà, Saint-Denis, oui, bien sûr, Saint-Denis après le Bataclan. Donc voilà. Donc peut-être juste rapidement pour revenir sur votre parcours avant que vous deveniez le patron du RAID. Comment est-ce que justement on devient le patron de l'unité la plus recherchée de la police nationale? Patron du RAID, c'est le bâton de maréchal pour un policier quand même.
Oui, tout à fait. J'ai quitté la police au mois de juin. J'avais un peu moins de 40 ans de police. Je suis rentré dans la police à 21 ans. Et j'ai fait toutes sortes de postes sous toutes les latitudes, en réalité. Enfin, beaucoup de latitudes, en tout cas. Puisque j'ai travaillé, j'ai commencé comme officier. Puis assez rapidement, j'ai passé le concours de commissaire. J'étais commissaire en 84. Et j'ai travaillé en police judiciaire, en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. J'ai travaillé en sécurité publique. J'ai travaillé en Nouvelle-Calédonie pendant 3 ans, en Guyane, où j'étais chef de la police en Guyane pendant 4 ans. J'ai fait de la coopération en Afrique avec les policiers et les gendarmes africains au Mali et au Gabon. J'ai travaillé à la police aux frontières, j'étais sous-directeur de la police aux frontières, je travaillais dans un grand office qui s'occupait de rechercher la criminalité organisée qui profite des migrants clandestins, etc. etc. Donc j'ai un parcours vraiment transversal et je me suis surtout occupé des groupes d'intervention de la police nationale entre 1994 et 1997.
D'accord.
Les groupes d'intervention, c'était déjà des petits raids qui étaient dans les grandes villes de province. Et c'est sans doute grâce à ce profil-là que j'ai été appelé sur le tard à prendre le raid en mars 2013.
D'accord. La police, c'était pour vous, c'était une vocation, c'était quoi ? C'était un...
Moi, depuis tout petit, mais vraiment tout petit, je rêvais d'être commissaire de police. Et je ne sais pas trop pourquoi, parce que dans la famille, il n'y a aucun flic, par moi. Si, mon beau-père était policier, mais je ne le connaissais pas à l'époque.
Oui,
donc voilà, c'est ans.
À 11 ans, je pense, effectivement, vous ne connaissiez pas forcément votre beau-père, mais, ou donc, alors vous êtes très précoce. Mais...
Donc voilà, j'ai toujours voulu faire policier. Et quand je suis rentré dans la police et quand je suis rentré à l'école des commissaires de police, entre 84 et 86, la scolarité dure 2 ans, c'est créé le RAID. Et là, dès qu'il y a eu le RAID, j'ai dit, je vais être commissaire au RAID.
Voilà. D'accord, donc il y a une certaine linéarité dans votre parcours pour arriver, pour arriver au RAID.
Ouais, aucune originalité.
Oui. Non, aucune originalité, si, parce que, alors, vous disiez justement, les RAID, c'est quand même des hommes impressionnants. Vous disiez déjà, vêtus de noir, les cagoules, etc. C'est vrai que sur le plan visuel, ça marque. Mais alors, on s'attend toujours à ce que ce soit des colosses. Bon, alors, sans vouloir... Vous minorez vos capacités physiques, vous ne faites pas l'effet d'un surhomme hein, quand même, quand physiquement.
Messieurs, dames, c'est terminé. Non, mais au RAID, parmi les opérateurs, donc les
oui,
gens.
Oui, vous appelez les opérateurs.
Oui, les opérateurs, c'est ceux qui font partie de la colonne d'assaut. Tout le monde est sur l'opération, mais eux sont dans la colonne d'assaut. Il n'y a pas que des colosses. Hein.
Ouais.
On a beaucoup de gens très costauds. On a beaucoup de champions de tout, de sport de combat, de tir, de plein de trucs, de parachutisme, etc. Mais on a aussi des gens qui sont très, très fins, très filiformes, pour travailler, par exemple, sur les techniques de corde, etc., où il ne faut pas être trop lourd, et qui sont aussi très, 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 très péchu quoi. Donc c'est pas forcément des critères physiques tels qu'on le. C'est comme une équipe de rugby, il y a les avant et les arrière.
Oui, tout à fait.
Maintenant on les mélange un peu. Quoi.
Oui, encore que maintenant voilà, dans une équipe de rugby, même le demi de mêlée il fait 90 kilos, mais d'accord. Et alors par contre évidemment, ce qui compte aussi beaucoup, bien sûr, c'est le physique avec les entraînements quotidiens, etc. Puisque c'est quand même évidemment des interventions très physiques. C'est aussi bien sûr, c'est beaucoup dans la tête que ça se passe. Et ça, on va en parler. C'est justement un point qui vous a beaucoup intéressé. Vous, c'est à la fois l'action qui vous intéresse. Et puis, vous en parlez aussi beaucoup avec Caroline. Il y a la partie management aussi qui était chez vous très développée, qui vous intéressait beaucoup, justement, d'être patron. C'était aussi pour manager des équipes. C'est ça qui vous intéressait, quoi.
Oui, moi, ce qui m'intéressait dans le rôle de commissaire de police, c'est le commandement. Le commandement de terrain. C'est être sur le terrain et amener mes gars d'un point A à un point B. Alors, quelquefois, il y a plus de difficultés, surtout quand le point B, c'est contre des terroristes qui vous tirent dessus et au péril de la vie d'un certain nombre de mes policiers et quelquefois de moi-même. Quoi. Donc, effectivement, c'est quelque chose de particulier. Mais c'est quelque chose de passionnant. D'ailleurs, il y a ce livre-là, mais il y a les deux autres bouquins qui sont là-bas sont sur le management aussi. C'est important parce que le RAID, c'est une unité que moi j'ai prise en 2013, qui était une unité qui était très professionnelle, une unité d'élite bien évidemment, mais qui était un peu traumatisée par l'affaire Mera. Sur laquelle il y avait eu des instructions précises pour négocier, et le RAID a négocié parce que c'est comme ça qu'il faisait à l'époque. Et on a remis en cause cette manière de faire là parce qu'on s'est dit que, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais on s'est dit que C'est pas qu'on s'est dit, c'est qu'on a, on a analysé la menace, on a vu comment se comportait Mera, on a analysé les menaces de ce type d'individus radicalisés partout dans le monde, et on s'est aperçu que jamais, nulle part dans le monde, ils ne se rendent. Donc la négociation pour la reddition était... Donc on a changé nos procès d'intervention. Et ça, quand on change les procès d'intervention, il faut le faire accepter des opérateurs, c'est-à-dire qu'on demande aux opérateurs de prendre des risques. Alors au RAID, les risques mortels, ils connaissent, mais encore plus de risques. C'est-à-dire aller plus vite, sortir de sa zone, entre guillemets, de confort, et prendre du risque. Et ça, il a fallu le faire. Et en plus, parallèlement, en tant que chef du RAID, il a fallu aussi expliquer à son N plus 1, N plus 2, le N plus 1 étant le directeur général de la police et le N plus 2 étant le ministre Bernard Cazeneuve lui-même, il a fallu leur expliquer à tous les deux, Bernard Cazeneuve comprenant mieux que le directeur général d'ailleurs, il faut le dire que quelquefois les hauts fonctionnaires parce qu'aussi Bernard Cazeneuve était en charge de la sécurité des Français directement, il a fallu donc leur expliquer on ne négociera plus, on a une manière d'opérer qui est différente et donc le jour où ça va se passer parce que ça va se passer, eh bien, à ce moment-là, j'ai besoin de votre aide pour que vous m'appuyiez sur l'ordre d'assaut et pas que vous me demandiez de négocier.
Oui.
Voilà. Donc, il faut l'expliquer au-dessus, il faut l'expliquer au-dessous.
D'accord.
C'est tout le rôle du management dans ces situations.
Bien sûr. Parce que, là, c'est pareil, justement, ça m'amène à une question que je voulais vous poser plus tard, mais puisque vous en parlez, allons-y tout de suite, rentrons, hélas, dans les faits dramatiques qu'a connu la France et que vous avez connu, évidemment, au tout premier plan. Par exemple, vous expliquez, vous racontez à Caroline que quand vous rentrez dans le Bataclan, donc déjà, vous marquez un temps d'arrêt, vous êtes... j'allais dire pas terrorisé, mais c'est un moment d'effroi qui vous stoppe pendant un quart de seconde quand vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur du Bataclan. Et évidemment, ben, vous rentrez ensuite, évidemment. Et un des terroristes demande à votre négociateur, négociatrice en l'occurrence, je crois que c'est, si je me souviens son nom, c'est une femme, de savoir si vous êtes le RAID et c'est là que vous lui dites ne dis surtout pas qu'on est le RAID parce que à ce moment-là vous considérez que lui son but c'est de se faire exploser pour tuer le plus de policiers possible quoi.
Oui c'est exact la partie Bataclan c'est celle où on a eu le plus de mal à coucher au niveau psychologique.
Oui.
Après, il y a eu la partie Saint-Denis où on a revu, corrigé plusieurs choses pour ne pas faire polémique. Mais l'aspect Bataclan, c'est quelque chose de très fort.
Oui.
Il s'est passé...
On sent d'ailleurs que,
oui.
Encore que c'est...
Ah bah, c'est toujours, oui. C'est toujours présent. C'est toujours,
on ne pourrait jamais oublier ça, ce qui s'est passé.
Non, ce n'est pas possible. Oui. C'est pas possible. Oui. Vous rentrez, vous avez... on ne va pas refaire le truc, mais c'est un drame absolu. Il y a des cadavres partout, des blessés et tout. Et... Donc on est figé par ce qu'on voit. Mais on est figé, mais il faut aller chercher les deux terroristes qui sont de l'autre côté de la scène. Donc on y va, on va devant. Voilà. Et effectivement, à un certain moment, ils sont derrière des portes sur l'arrière-scène. Et ils naviguent entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée est tenu par le RAID, le premier étage est tenu par la BRI. La BRI déclenchera l'assaut du premier étage et les gaz feront exploser entre les deux étages. L'effet souffle ira vers le bas et je vais avoir un opérateur qui va être blessé là-dessus, mais il s'est bien remis après. Et effectivement, juste avant ça, à un certain moment, le terroriste dit... alors, on a menti sur le bouquin. C'est le seul mensonge qu'on a fait. En fait, le terroriste, il dit « c'est le GIGN ». J'ai dit « on ne peut pas dire ça sur le bouquin ». Alors, et le terroriste dit, c'est le GIGN, c'est le GIGN. Et là ma négociatrice qui, en temps normal de négociation, c'est-à-dire quand on est face à un individu qui a pris des otages ou qui est forcené, mais qui a des problèmes psychologiques, pas un radicalisé.
Oui.
Là, on négocie. On arrive à 80 et 90% des cas à sortir le gars de la négociation. Et dans ces cas-là, le principe de base des négociateurs, c'est de dire la vérité. Voilà, de ne pas cacher la vérité. Pas toute la vérité, mais de dire la vérité. Et donc là, elle me dit, ben, on va lui dire que c'est le raid. J'ai dit certainement pas, parce que là, on n'est pas en face de... on est en face d'un radicalisé, et lui veut se faire exploser parce qu'il recherche la mort. Et il recherche la mort, si possible, en combattant en face de lui des ennemis valeureux.
Oui, bien sûr.
Parce que plus il combat des ennemis valeureux et plus il trouve la mort en combattant les ennemis valeureux, plus il monte rapidement au paradis d'Allah. C'est ça que nous a appris la Fermera. Donc, je lui dis, non, tu ne dis rien.
Et en un quart de seconde, en plus, c'est ça qui est impressionnant. C'est que hop, c'est tout de suite, quoi. Ça demande pas 5 minutes de réflexion. C'est tout de suite qu'il faut prendre la décision, quoi. Là, dans ce genre d'assaut, c'est tout de suite.
Alors, là, moi, j'ai... Alors, vous saurez que c'était le GIGN. Vous êtes les seuls à savoir. Ça reste entre nous.
Ça ne doit pas sortir d'ici. Hein. Et non, mais alors, moi, on en avait parlé dans l'entretien qu'on avait eu pour Sud-Ouest. Et en relisant un peu le livre, j'ai encore été frappé par, justement, quand vous racontez votre entrée dans le Bataclan. Et ce qui est assez incroyable, c'est la façon dont vous racontez que vous vous projetez dans un paysage de votre grand-père, quoi, comment dire, pas décompresser, mais enfin, voilà, ça dure un quart de seconde, mais vous avez besoin de faire ça pour vous reprendre, quoi, en gros.
Oui, chacun a des techniques particulières pour essayer de se remobiliser après ce moment de où on est figé, quoi. Je me souviens que ce que j'ai pensé, c'est tellement frappant. On ne s'attend vraiment pas à ça. On s'attend à voir 2-3 cadavres. Ça, dans ma carrière, j'ai déjà vu 2-3 cadavres. Centaines de cadavres avec des blessés qui râlent. Et des...
Oui, puis c'est à l'arme de guerre.
Personne s'y attend. Voilà, donc moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je ne veux pas être là. Quoi.
Oui.
Et on est obligé de se remobiliser.
Donc, bien sûr, oui, parce que vous devez être là.
Ouais. J'ai fait une technique que j'ai déjà employée à plusieurs reprises sur d'autres situations moins terribles. C'est-à-dire, on pense à des choses plus agréables, à un paysage en général, un paysage qui permet de se remobiliser rapidement. Oui. Quoi, un paysage agréable. Oui. Paysage de montagne.
Je dis ça juste une parenthèse que j'ouvre, parce que par rapport à ce que vous disiez sur les négociations, dire la vérité, etc., bien sûr, le livre est essentiellement consacré à votre combat contre les terroristes, hein, aux interventions du RAID contre les terroristes, sachant que le RAID intervient à peu près 70 à 80 fois dans l'année, je crois, pour justement vous parler de forcenés, etc. Mais bon, là, évidemment, ça n'est pas l'objet du livre. Là, on parlait des attentats terroristes qui ont ensanglanté le pays. Juste avant qu'on revienne vers vous, Jean-Michel, on va peut-être juste demander un peu à Caroline. Donc, on va se tutoyer, on ne va pas faire semblant de se vouvoyer. Toi, c'est un univers que tu découvrais, l'univers du RAID. Tu débarques un peu comme une pimprenelle à Bièvre, chez des gens qui s'entraînent, des super policiers. Tu découvres cet univers, tu découvres Jean-Michel Fauvergue. Quelle est ta première impression quand tu débarques là-bas?
Moi, j'ai deux impressions. La première, c'est qu'effectivement, ce n'est pas des colosses au sens... C'est des colosses.
Ça, je sens qu'on va me le faire payer, cette réflexion.
Un peu. Et qu'effectivement, c'est avant tout... Il y a beaucoup d'hommes comme il y a... Moi, j'ai croisé peu de femmes, donc c'est quand même un univers d'hommes. Mais un univers d'hommes extrêmement courtois, extrêmement gentil, extrêmement attentionné. Enfin,
ouais.
C'est pas du tout l'univers qu'on peut s'imaginer. C'est,
ouais.
C'est des gens attentifs, c'est vraiment des gens qui vous disent bonjour au moment où vous arrivez plusieurs fois. C'est des gens souriants, c'est des gens calmes, évidemment. Personne ne surjoue, quoi.
C'est, ouais, ouais.
C'est tout le contraire de ce qu'on voit un peu partout dans la vie en ce moment, quoi.
Ouais.
C'est très fort.
Ouais. Et alors, faire parler Jean-Michel Fauvergue, raconter ses souvenirs, parce que j'imagine qu'il y a aussi peut-être des choses secret défense, top secret qu'on ne peut pas raconter. Tu expliques à chaque fois, hein, dans le livre, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu à peu près une vingtaine de rencontres, hein, c'est ouais, ça, entre vous. Et à chaque fois, donc, tu racontes le contexte dans lequel ça se fait. Et donc, évidemment, la première rencontre, comme tu le dis, ben, là, évidemment, il y a Jean-Michel Fauvergue et ses hommes sont évidemment appelés sur place. Donc, le livre attendra. Donc, à chaque fois, voilà, c'est
Mais en même temps, enfin, évidemment, les événements ont été terribles. Donc, c'est vraiment terrible. Mais moi, d'avoir vu ces événements à ce moment-là, avant de le rencontrer vraiment, ça m'a permis d'être... Enfin, de beaucoup plus comprendre ce qu'ils pouvaient ressentir. Enfin, en fait, de commencer à avoir peur pour eux. Parce que j'étais déjà passé un peu de l'autre côté de la barrière.
Et j'ai parce que tu ne dissimules pas l'empathie que tu as, forcément, qui est normale, d'ailleurs.
De comprendre ce que peuvent ressentir les familles. Ouais, c'est-à-dire que, d'un coup, je me dis, mais il y a effectivement, comme dit Jean-Michel, il y a quand même plusieurs personnes qui doivent trembler pour ces hommes-là à ce moment-là. Oui. Quoi. Et tout d'un coup, j'étais un peu décalée en tant que journaliste en me disant, il y a les images, et puis il y a vraiment des vrais hommes sur le terrain, de la vie en jeu. Et j'ai peut-être mieux perçu qu'on était tous un petit peu... Voilà, je ne vais pas dire à côté de la plaque, mais qu'on ne se rendait peut-être pas bien compte de l'enjeu.
Oui, parce que j'allais dire que le livre, Jean-Michel Fauvergue, on a tous vu évidemment les images, on était scotchés devant nos écrans, des images de l'assaut sur l'hypercachère, tout ça. Et j'allais dire, ce livre, c'est un peu, si on peut dire, le making-of, comment est-ce que se prépare une opération, la minutie avec laquelle ça se prépare. Voilà, c'est incroyable la façon dont vous êtes surpréparé, quoi. Vous savez exactement ce qu'il faut faire, là où il faut attaquer, etc. Et puis il y a quand même évidemment aussi la part d'imprévue qu'on ne peut pas exclure, quoi. C'est ce mélange un peu de préparation et puis de faire face à l'imprévu de dernière seconde qu'il faut avoir, quoi.
Oui, c'est la. En fait, c'est pas que la préparation des opérations, c'est la préparation du raid. Moi, je prends le raid donc mars 2013. Le raid avait commencé à évoluer, mais on doit le faire évoluer rapidement. Donc après, il faut le prendre en compte, le prendre en main. On voit les nouvelles menaces, les menaces des individus, des radicalisés. On part, comme je l'ai dit, de l'affaire Mera. Donc on évolue rapidement, on évolue dans le process d'intervention. Il faut le faire passer aux effectifs qu'on a. Avec cette prise de risque qui est pas évidente, de demander à des gens qui déjà prennent des risques physiques importants de prendre des risques mortels beaucoup plus importants pour aller vite et pour sauver des otages. Et ensuite on transmet ça aussi à nos décideurs. Tout est tendu vers ça. Avec une équipe de management qui est en place et qui réfléchit. On travaille beaucoup par équipe et par cercle concentrique. Donc voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait. Et l'aboutissement de ça, c'est Vincennes. C'est l'hypercachère de la porte de Vincennes. L'hypercachère de la porte de Vincennes, c'est, il faut prendre des précautions oratoires parce qu'il y a eu 4 morts. Oui. Dans l'hypercachère, qui ont été tués, les otages ont été tués par Amédi Coulibaly avant qu'on arrive sur place. Mais pour nous, on avait le défi de. Il y avait 26 otages à l'intérieur. En même temps, comme dit Macron, en même temps, mais dans d'autres contextes. Sur. J'aurais pas dû dire ça, c'est enregistré le truc. Sur.
Ça va, tant que vous citez Macron, ça va. C'est...
Sur Dammartin Angouël. Il y a les frères Kouachi qui sont encerclés par le GIGN, en secteur gendarmerie. Nous, on a cette crise exactement en même temps à Vincennes, à gérer. On sait que les deux, le Coulibaly et les frères Kouachi, sont en contact, ou on craint qu'ils ne soient en contact. Et Coulibaly nous le dit dès le départ, s'il arrive quelque chose aux frères Kouachi, je tue tous les otages. Donc il faut gérer ces deux trucs-là. Et moi, je gère ça avec mon collègue chef du GIGN. Avec qui on a un relationnel fort en amitié. Voilà, ça, c'est important à le savoir. J'ai deux officiers à lui, il a deux officiers à moi, on s'échange des informations en direct. Donc, on a deux crises à gérer en même temps. Sur Vincennes, en plus, le ministre déclenche ce qu'on appelle la FIPN, la Force d'intervention de la police nationale. Ça donne la possibilité au chef du raid de prendre le commandement à la fois sur le raid et sur la BRI. La BRI, c'est l'équipe d'intervention de Paris Intramuros. Donc j'ai les deux équipes. C'est-à-dire que tout le monde intervient en même temps. Et il faut qu'on se synchronise pour intervenir. Et il faut qu'on arrive à sauver tous les otages. Eh bien, à ce moment-là, effectivement, c'est grâce au travail en amont qu'on a fait, que l'équipe de management et de commandement a fait sur le raid, par période plus calme, ce qu'on appelle du management de cœur chez nous. Par période calme, management de cœur. Avec aussi le relationnel qu'on a fait avec le GIGN, le relationnel qu'on a avec la BRI, qui nous permet de déclencher cette opération-là, qui me permet à moi, chef de dispositif, de déclencher cette opération. Et au moment où je prends la décision sur place de partir à l'assaut, là, on n'est plus dans le management de cœur, on est dans le commandement de guerre. C'est-à-dire que c'est à l'assaut, c'est maintenant, de suite, il n'y a pas de trop à l'accélération. C'est ce que résumait Clémenceau, qui s'y connaissait en crise, qui dit en période de crise, il faut être en nombre impair pour prendre une décision et pas plus de deux.
Oui, c'est ça. Parce qu'il faut rappeler qu'au moment où vous donnez l'assaut, où on ne peut plus attendre pour donner l'assaut, c'est que les frères Kouachi viennent de sortir de l'imprimerie et ont été tués par les gendarmes du GIGN. Et donc là, vous vous dites, ben, ça y est, Koulibaly va la prendre et là, ça peut être le massacre. Et donc, voilà, là vous êtes au pied du mur, on ne peut plus attendre, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est que effectivement, la préparation, mais l'élément imprévu, inattendu, et là, en l'occurrence, heureusement que vous ne pouvez pas savoir quand vous préparez, c'est ce salarié de l'hypercacher dont j'ai oublié le nom, qui est un héros, qui a permis de
la Sena.
Voilà, c'est ça, qui a été ensuite naturalisé français. Voilà, ça, c'est un élément qui ne fait pas partie du dispositif, mais qui permet justement d'évacuer des otages. Voilà, c'est important aussi qu'il y ait ce genre parfois d'imprévu.
Alors oui, on a beau se préparer, on a beau préparer d'une manière générale avant, préparer cet assaut-là d'une manière spécifique en récupérant du renseignement, par où rentrer, est-ce qu'il y a des portes, est-ce qu'il y a des fenêtres, est-ce qu'on peut faire péter les murs, combien il y a d'otages, combien il y a de preneurs d'otages, etc., et par où on peut passer, c'est le plus important. Mmh. On a beau se préparer à tout ça, il y a des imprévus dans tous les sens. Les imprévus positifs, c'est-à-dire récupérer les clés pour ouvrir la porte, parce que nous, on a des spécialistes explosifs, d'ailleurs, qui vont faire péter la porte arrière. Mmh. Et on a prévu des explosifs sur la porte avant, mais on récupère, c'est sur le volet, on récupère les clés. Il faut le savoir, hein, le meilleur moyen d'ouvrir une porte, c'est d'avoir les clés. Hein.
Oui. Voilà,
même pour nous. Même pour nous. Et ça, c'est un imprévu positif. Mmh. Après, il y a des imprévus négatifs parce qu'on ne sait pas si véritablement les portes vont bien ouvrir, si on a les caméras qui nous filment. On ne peut pas mettre nos explosifs avant sur la porte arrière parce qu'on est filmé en direct, etc., etc. Et ce que je tiens à dire, ce que j'ai toujours dit, et je pense qu'on l'a écrit aussi dans... Non, je ne sais pas si on l'a écrit dans le bouquin, mais en tout cas, je le dis souvent, la différence entre une opération de ce type-là, totalement réussi, et une opération où c'est le fiasco total, il n'y a pas la différence d'une feuille de papier. Mmh. C'est-à-dire que moi, quand le ministre quand j'ai dit au ministre, c'est l'assaut qu'il nous faut, on va y aller, c'est le seul moyen de sauver les otages, je ne suis pas sûr de sauver tous les otages. Et je pense qu'on va avoir des pertes chez nous, mais on va y aller quand même. Mmh. C'était ce que je ressentais. On n'a pas eu de pertes, on a eu des blessés légers qui sont bien remis, et tous les otages, on les a sauvés. Mais pour autant, je vais prendre un mot un peu vulgaire, il ne faut pas se la jouer. Mmh. Et un chef d'unité d'intervention ou un militaire, ce que vous voulez, un policier, qui va rouler des mécaniques là-dessus, c'est qu'il n'a rien compris.
Oui, bien sûr.
Parce que il y a de la technique, il y a du courage, il y a une stratégie derrière, il y a tout ce que vous voulez. Mais ça peut basculer sur... il suffit que la porte ne s'ouvre pas, que Koulibaly reprenne ses esprits.
Bien sûr.
Et il nous rafale les otages.
Bien sûr, oui. Voilà. Et alors, ce que vous dites là, justement, vous parlez des opérateurs qui risquent leur vie. Mais ce qui est, j'allais dire, magnifique, mais bon, vous allez sans doute me dire que ça fait partie du job, c'est que quand vous dites « on y va », Ils sont tous volontaires pour être, pour entrer le premier et risquer de se prendre une balle ou une rafale, quoi. Mais ils veulent tous y aller. Et là, c'est vous, le chef, qui dites, qui désignez, qui sera le premier, le second, qui donne l'assaut, quoi. C'est votre rôle, quoi.
Alors, c'est pas exactement moi qui désigne les gens, oui, parce que c'est structuré par, oui, par groupe, par section, par unité, etc. Donc, chacun a son boulot. Et ça, c'est le chef de groupe. Les groupes, c'est à peu près ça, oui, qui va désigner le premier de groupe, etc., etc., en fonction de... Comme dans une équipe de rugby ou de foot, avec un coaching plus réussi que le Paris Saint-Germain d'hier.
Quoi, oui, malgré tout. Enfin, sauf que là, on risque sa peau quand même. Ouais. Paris Saint-Germain, il risque le ridicule, mais c'est tout, quoi.
Mais donc, il faut... oui, les gens... Alors, par contre, il faut pas se leurrer, et je pense que Caro va confirmer. C'est, quand c'est le top assaut, c'est le... Avec beaucoup plus de discipline, mais c'est le village gaulois. Ouais. C'est Astérix, c'est-à-dire qu'ils se battent pour être les premiers. Ouais. Ils se battent pour être les premiers de porte. Il ne faut pas croire qu'ils sont tous... Voilà, il y a l'adrénaline, il y a le fait qu'ils sont là pour ça. Il y a les valeurs qu'ils défendent, il y a les otages à sauver. Ils se battent pour être... C'est comme Obélix qui se bat.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Il frappe ses copains pour arriver
pour premier sur les Romains. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Tu confirmes, Caroline?
Je valide.
Oui, ouais. D'accord. Ça, tu en as parlé.
Oui, le sentiment qu'on a aussi, c'est qu'il marche extrêmement aussi. Il y a de l'entraînement, mais il y a énormément de confiance entre les uns et les autres. Je crois que tout repose quand même sur ce sentiment de fraternité, de confiance. Il y a la technique, mais aussi la confiance. Et ça, c'est quand même très humain, enfin, il me semble.
Parce que ce qu'il faut préciser, peut-être, Caroline, c'est que, évidemment, le livre est à 80% composé des entretiens que tu as eus avec Jean-Michel Fauvergue, mais tu as également rencontré des officiers, les adjoints de Jean-Michel Fauvergue. Et puis alors, un chapitre important aussi qui me permet de signaler que Madame Véronique Fauvergue est dans la salle et elle est venue soutenir son mari dans cette difficile épreuve. Le rôle des femmes, des conjointes, des compagnes est essentiel. D'ailleurs, vous le mentionnez, la famille. Et parce que d'abord, c'est ce que tu disais, que les familles tremblent.
Jean-Michel qui peut parler du rôle, évidemment, de leur famille pour eux. Mais par contre, moi, encore une fois, ce qui m'a frappé, c'est les liens qui unissent tous ces hommes. C'est pas des mots. Et je pense que tous les adjoints, en tout cas de Jean-Michel, qui m'ont parlé quelquefois en dehors du livre, bon, c'est pas pour le flatter aujourd'hui, mais m'ont tous dit ça a été notre meilleur chef. Quoi. Je crois qu'ils ont besoin d'un chef. Ouais. Et qu'effectivement, si ce chef n'est pas aimé ou pas respecté ou pas compris, j'imagine bien que sûr, dans des opérations si difficiles, après moi j'y connais rien, je suis pas sur le terrain, je suis pas même du raid, mais que ça marche quand même moins bien. Donc ça, je pense qu'il y a un sens quand même du terrain que Jean-Michel a peut-être plus qu'un autre.
C'est ce que vous disiez, et on en revient un peu à ce que vous disiez sur le management, c'est qu'en fait... voilà, c'est des types qui sont super entraînés, etc., qui sont prêts à risquer leur vie, vous venez de le dire, et qui tueront sans hésitation pour sauver les otages, etc. Et en même temps, il y a un affectif énorme, quoi. Et ça, c'est à vous de le gérer aussi, justement. C'est des gens je vais pas dire qui marchent à l'affectif, mais pas loin quand même.
Ils ont un affect qui est proportionnel au poids de fonte qui pousse dans la salle de muscu, quoi. Ouais. C'est bon, déjà il faut savoir que les policiers, les gendarmes, les policiers municipaux, ces gens qui font de la sécurité ont un affect particulièrement développé. Pourquoi ? Parce que ils vibrent pour leur travail. Les gens s'engagent, tous ces gens qui font cette sécurité là, ils s'engagent pour sécuriser les citoyens et voilà. Et donc, à un certain moment, pour la plupart d'entre eux, c'est des écorchés vifs. Donc, il y a un affect important. Et ça marche effectivement avec des chefs. Mais des chefs, on a tous besoin de chefs. C'est à tous les niveaux, on a besoin de chefs. Et ça marche parce qu'on a besoin de suivre ça et on a besoin de quelqu'un qui montre la voie. En termes de management, c'est important. Ça ne peut pas reposer que là-dessus. Mais c'est aussi quelque chose d'important, surtout quand le chef arrive à expliquer vers d'où on part et où on va, en analysant la menace, en ce qui nous concerne. Pour les entreprises, c'est l'analyse du marché. En mettant en place de nouveaux process pour ce type de menaces-là, moi, je fais des conférences en entreprise sur le management. Vous en doutez un peu, c'est sur ce domaine-là que je fais. Ça marche aussi de cette manière-là. Mais l'affect est aussi important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus commander. Le commandement hiérarchique du haut vers le bas n'existe plus. On ne peut plus commander ça sans faire participer les gens à un certain type de décision, pas toutes les décisions. Oui. Rappelez-vous du commandement de guerre, ça, certainement, c'est pas négociable. Mais il faut qu'on arrive à être explicatif et surtout à s'adresser aux gens de manière empathique. L'empathie, c'est quelque chose d'important.
Oui.
C'est pas un défaut. L'empathie, c'est une qualité. C'est pas aller dans le sens de celui qui est en face de vous, c'est comprendre ce qu'il vous dit, essayer d'y réfléchir et de ni le rejeter ni le prendre d'un seul coup. Ça, c'est important. Celui qui ne sait pas faire ça, qui soit chef de police, qui soit dans l'armée, qui soit chef d'entreprise, qui soit RH dans une entreprise, ne saura plus maintenant amener ces gens vers là où ils veulent les amener.
Ouais. Alors, je parle de l'affectif, parce que parlons-en, puisqu'en plus, l'actualité fait qu'on a reparlé de cet événement, donc avec la relaxe de Jawad Ben Daoud, le surnommé le logeur des terroristes. Donc, c'est vrai que, c'est en plus, vous en parlez hein, avec Caroline dans le livre, l'assaut que vous donnez. Donc à Saint-Denis contre le comment il s'appelle Abdelhamid Ben Daoud, hein, c'est ça. Va faire l'objet de remarques un peu acidulées de la presse. Ils disent qu'il y a des milliers de balles qui ont été tirées, alors que visiblement les terroristes n'avaient qu'un pistolet pour se défendre. Et donc voilà, vous racontez que ça chez vos hommes. C'est très mal vécu parce qu'ils ont risqué leur peau. Et puis, dans la presse, ça n'apparaît que vous avez utilisé des grenades, des missiles pour tuer une fourmi. Quoi. En gros, c'est un peu ça qu'on ressort. Quoi. Donc là, c'est là où, justement, votre rôle de chef, c'est aussi de dire, bon, allez, les gars...
Oui, c'est la vérité. Alors, la polémique, rapidement. Abaoud, c'est qui ? C'est celui qui a c'est le cerveau du 13 novembre. C'est le gars qu'on voyait quelques mois auparavant en Syrie en train de tirer une quinzaine de cadavres derrière son pick-up. Hilar. Et c'est celui qui s'apprêtait à faire un attentat majeur à la défense. Hein, je crois.
Oui.
À la défense, voilà. Là, on a situé le truc. Ils étaient trois, donc il y avait Abaoud plus la jeune fille et une autre personne, et ils avaient des gilets explosifs. Qui c'est qui intervient sur eux ? C'est le RAID. Le RAID est déjà intervenu à Vincennes, et surtout, il est intervenu quelques jours avant au Bataclan. Et pour la première fois, on est confronté à ces gilets explosifs. Et on a eu des gilets explosifs qui ont explosé. Avec des boulons qui sont éparpillés, qui ne nous ont pas touchés, mais voilà. Bon, on sait que c'est. Moi, je sais que c'est une. C'est ingérable, ce truc-là. Et donc, on repart quelques jours après sur des types qui ont des gilets explosifs, dont on sait que c'est le cerveau du truc. Et moi, durant toute l'époque où j'étais au RAID, j'ai toujours eu peur de perdre des gens. Et là, je me dis.
Oui, ça bon, vous expliquez, votre hantise, quoi, de perdre un homme.
Ouais. Si on s'en est bien sorti au Bataclan, là, on remet ça. Quoi. Donc, on met en place une stratégie qui échoue parce que un des explosifs fait long feu, ça arrive. Et bon, ça arrive au mauvais moment. Et donc, on n'a pas l'effet de surprise. Donc, on est obligé de faire des tirs de barrage pour maintenir ces mecs qui ont leur gilet explosif à distance, pour pas qu'ils se collent dans des parois qui ne sont pas des murs porteurs et qui mettent une équipe au tapis que je ne peux pas reculer parce qu'on est au contact. Voilà. En fait, c'est ça la stratégie. Et donc, on prend son temps et on fait des tirs de barrage pour les laisser à distance. Et à un certain moment, il y en a un qui explose, qui fait... Bon, les murs se vrillent tellement de l'explosion. L'opération continue. Et
oui,
puis,
on a vu les images à la télévision. On voit l'image.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en face de nous... Alors, effectivement, il n'y avait pas de Kalachnikov. Mais... Ils avaient une arme de poing, une 9 mm, donc une balle de 9 mm. Moi, je vous assure, ça tue autant qu'une balle de Kalachnikov. Ils avaient les gilets explosifs. C'est l'arme absolue. Mmh, mmh. Et surtout, ils avaient des grenades. Et plus personne n'en parle de ça. Ils avaient des grenades. Ils ont balancé cinq grenades. Et j'ai eu des blessés par grenade. Et ça, personne n'en a parlé, bizarrement. Voilà. Ça a été oublié. Et donc, les gars font cette opération-là, neutralisent ces terroristes-là. Et un mois après, à peu près, cette polémique ressort. Donc, les types ne comprennent pas. C'est d'abord, d'autant qu'ils ont été... plus haut. Et cette douche froide.
C'était des héros voilà. Après le Bataclan, l'intervention. Ouais. Et puis là.
Cette douche froide, ils ne la comprennent pas. Et comme ils ne la comprennent pas, eh bien, et comme ils vivent entre eux et avec des gros affects, eh bien, ça rumine. Ça, voilà. Et donc à ce moment-là, moi je pense que c'est là où j'ai eu un des rôles les plus importants, bizarrement. C'est-à-dire revenir au calme, leur dire que cet incident-là n'est pas grave. Que pour autant, ce n'est pas le désamour avec la population, parce que la population n'a pas compris non plus cette polémique-là avec ces journalistes. Ouais. Elle ne l'a pas compris. Le RAID est passé d'une unité d'élite à un emblème national. Ouais. Je raconte une histoire touchante. Un an après, je suis revenu sur les lieux du Bataclan quand le président de la République et la maire de Paris ont inauguré la stèle où il y a tous les noms des morts du Bataclan. Moi, je n'étais pas revenu. J'étais en tenue d'intervention du RAID. J'étais seul au RAID. Il y avait mon collègue de la BRI à côté. Les autorités nous ont salués très chaleureusement. Après, elles sont parties. Je suis resté sur place parce que je voulais revoir le Bataclan que je n'avais pas vu depuis un an. Et là, j'ai une jeune femme en pleurs qui est venue me voir. Et j'ai compris, elle était dans les lieux un an auparavant. Quoi. Elle m'a dit, c'est vous que je voulais voir. Je voulais vous remercier. Bon, elle me dit, j'étais là-dedans, les terroristes sont arrivés en rafale, je suis tombé avec mon ami à côté, j'ai pas été blessé lui non plus, j'ai des cadavres qui sont tombés sur moi, qui m'ont protégé en quelque sorte, et j'ai dit à mon ami, n'aie pas peur, le RAID va venir nous sauver. Mmh. Pourquoi ? Parce qu'elle avait vu le RAID à Vincennes.
Oui.
Le RAID était venu pour elle un emblème, elle s'est raccrochée à ça. Donc l'image du RAID, comme beaucoup d'autres images des valeurs de la République, de notre drapeau, de notre Marseillaise, d'autres choses que vous pouvez connaître. Pourquoi pas notre équipe de foot quand elle gagne ? Pourquoi pas national ? Ces images-là, c'est des images fortes. Et moi, je pense que les journalistes, et quand je dis les journalistes, je rectifie certaines catégories de polémistes. Qu'on connaît bien maintenant, mais qui ont été malheureusement repris par des journaux sérieux, ont abîmé cette image-là. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils n'avaient pas la population derrière eux. La population était derrière nous, et toujours derrière nous.
Oui, voilà. Tout à fait. Alors, ça vous a aussi permis, cette polémique, etc. Ça vous a permis de mesurer aussi, par contre, le soutien de la population et puis aussi, ce qui est important quand vous faites ce genre d'intervention, le soutien de l'État, des gouvernants, des ministres, du président de la République. C'est important de savoir que vous montez au front avec le plein soutien, le feu vert, etc. Et puis surtout, la confiance. C'est un mot que vous utilisez aussi souvent. Sans confiance, ça ne marche pas, votre métier.
Oui, alors la confiance dans tous les sens.
Oui, c'est-à-dire bien sûr.
La confiance, moi, en mes opérateurs, mes
bien
opérateurs
sûr.
En moi.
Bien sûr.
Et la confiance aux politiques, aux décideurs. Parce que des situations comme ça, bien évidemment, vous comprendrez facilement que c'est des situations politiques. Celui qui prend la décision, c'est celui qui a pris la décision d'assaut à Vincennes, conseillé par le ministre de l'Intérieur, c'est le président de la République. Président de la République, il y avait le président de la République, il y avait Valls dans le bureau, il y avait Bernard Cazeneuve. Et ils ont pris la bonne décision et ils ont suivi mon plan d'assaut là-dessus.
Qu'ils vous faisaient confiance aussi.
Parce qu'ils faisaient confiance, voilà. Et parce qu'on a eu... alors après, on pense des politiques on en pense ce qu'on en veut. Mais dans des situations comme ça, moi je vous garantis, j'ai connu des politiques courageux. Tous les trois, ils ont été courageux sur cette et c'était pas facile à prendre comme décision. Ils ont été courageux. J'ai connu aussi, moi je l'ai pas connu personnellement, mais il y a eu aussi l'intervention personnelle de Sarkozy sur l'affaire de du Main de Bombe où il est allé chercher, des, il a sorti des, fait, des otages dans,
des gamins,
dans, dans une pièce qui était bardée d'explosifs. Alors bien sûr que ça, ça lui a... Ça, ensuite, il le récupère politiquement. Mais il faut y aller. Donc, on a des gens courageux qui ont pris les bonnes décisions. Voilà. Je voulais saluer ces gens-là.
Oui, mais vous le dites, justement, parce que si effectivement, le, et heureusement, ça ne s'est pas produit ainsi, mais le, l'assaut de l'hypercacheur tourné au massacre, je veux dire, voilà, c'était... alors, évidemment, vous en porteriez aussi, vous, la... la, la la trace dans votre tête, etc. Mais celui qui resterait responsable, ça, ça resterait François Hollande. Et, évidemment, il, lui-même le paierait, enfin, personnellement, mais je veux dire, dans, politiquement, c'était, c'était risqué de faire ça. On, c'est secondaire de dire politiquement, parce que l'essentiel, comme vous dites, c'était de sauver la vie des otages. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a cet élément que vous abordez. Alors, aujourd'hui, justement, que bah, vous êtes passé de, j'allais pas de l'autre côté, mais enfin voilà, vous avez, vous êtes passé du côté des élus, des politiques, etc. Ça vous manque pas cette adrénaline, ce stress, j'imagine 4 ans à la tête du RAID dans ces conditions, c'est de toute façon, j'imagine, c'est usant, c'est impossible de faire plus.
Oui, 4 ans et puis 40 ans dans la
oui,
police.
Oui, il y avait 40 ans avant, oui, bien sûr.
J'arrivais à l'âge de la retraite, donc voilà, il était temps de partir aussi. Mais,
parce que ce que vous dites, pardon, je vous coupe, c'est que dans le monde, il n'y a aucun patron d'unité comme le RAID qui a vécu les événements que vous avez vécu. Hein,
ouais, donc, tout à fait. Ouais. Tout à fait, des événements. Alors, il y a tout ce qu'on raconte, il y a les événements quotidiens. Ouais. On décrit à l'intérieur de ce livre... une affaire que je dirais normale, enfin c'est pas normal, une affaire non terroriste, voilà, sur un preneur d'otage, voilà, il y a ces affaires-là, il y en a plein, voilà, et on est tout le temps confronté à ça, on est sur de l'adrénaline tout le temps, dès que le téléphone bip, on repart, quelquefois on fait des centaines de kilomètres pour rien, l'affaire est et dénouer avant qu'on arrive sur place, etc. Bon, ça me manque plus trop. Le fait de trembler pour Méga, ça me manque plus trop non plus.
J'imagine.
Après, l'esprit d'équipe, la cohésion qu'il y avait, les pots du vendredi après... après une semaine de job, l'esprit police, bien sûr que ça me manque. Mais à un certain moment, il faut passer à autre chose. Oui. Et là, véritablement, je suis passé à autre chose.
Oui. Alors, vous dites, on en avait parlé également, vous dites que depuis ces événements, vous êtes incapable de voir un film violent. C'est au-delà du possible. Mais alors, par exemple, le film de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, où, qui raconte l'attentat manqué dans le Thalys, ça, par exemple, ça
ouais, j'essaierai d'aller le voir, celui-là.
Quand même,
oui. Mais
il n'y a pas beaucoup de sang, je l'ai vu.
C'est vrai.
Soit dit, c'est pas un bon film. Hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon.
Bon, alors, je vais pas le voir.
Non, mais parce que...
Ah, moi, j'aime bien Clint Eastwood.
Oui.
Mais bon, oui, alors... J'ai recommencé à en voir quelques-uns, mais c'est vrai que, et ça c'était la réalité, dans une émission télé désormais célèbre, j'ai fait rire l'ensemble de l'assistance en disant que moi, le truc le plus hard que je voyais, c'était Mimi Mati et Camping Paradis.
Oui.
Et de temps en temps, recherche appartement. Quand
voilà. Sur M6.
C'est sur M6, ça va.
Ouais. Voilà. Donc voilà, non mais...
Cauchemar en cuisine, non, pas possible.
Trop violent.
C'est trop violent.
Trop violent. Ça. Non mais après, les films où ça... Alors il y a l'aspect brutal, machin, mais il y a l'aspect aussi aberrant pour moi, de policier, de voir des trucs qui en fait ne se font pas comme ça, mais se feront peut-être d'une autre manière, mais pas comme ça.
Oui, et puis en plus, ce que vous me disiez avec humour, c'est que pour vous, ça faisait, de regarder des films policiers, ça faisait des heures supplémentaires. Quoi. Donc,
ouais.
Oui.
Et plus maintenant, je suis
oui,
la retraite.
Plus maintenant, oui.
Mais j'avais dit à Danny Boone, parce qu'il était venu.
Oui, ça, il y a ce chapitre que vous racontez, ouais. Qu'un Danny Boone qui vient tourner son film Red. Donc c'est vrai que ça.
Alors j'avais dit, Danny, moi, je regarde plus les séries policières parce que j'ai l'impression de faire des heures supplémentaires. Il me dit, moi, c'est pareil quand je raconte des blagues.
Et alors, l'univers de la politique que vous avez découvert, même si bon, vous étiez déjà en relation avec des hommes politiques, évidemment, mais j'imagine que c'est totalement différent des valeurs que vous venez de décrire de la police. Là, c'est quand même plus... vous allez me dire que sûrement pas La République En Marche, qui est le parti idéal, formidable, etc. Mais il y a quand même... c'est quand même plus un univers de coups fourrés, de mensonges. Là. Vous qui êtes un amateur de vérité, là-bas, c'est, dans la politique, c'est plus difficile à trouver quand même, non?
Alors moi, je rencontre... l'avantage de mon, entre guillemets, statut d'ancien patron du RAID, c'est que je suis un peu plus connu que, oui. que la moyenne. Et les gens savent ce que j'ai fait.
On ne vient pas vous emmerder.
Beaucoup, c'est pas ce que je voulais dire. Beaucoup, toutes tendances confondues, ont acheté le bouquin et je leur ai dédicacé. Moi, j'arrive à discuter. Enfin, j'arrive. Je suis pas le seul. Hein, ouais. Je discute un peu avec tout le monde parce que on peut se retrouver, quelles que soient les tendances, on peut se retrouver sur des choses communes. Je pense que, honnêtement, les valeurs communes de notre démocratie, du respect des valeurs qu'on a dans notre République, de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est très important ça, par rapport à ces barbares, de l'égalité de l'homme et de la femme, de l'amour de notre pays, du drapeau, alors pour l'Europe, c'est déjà plus compliqué avec certains, mais toutes ces valeurs que je vous ai dit là, on les retrouve avec d'autres. On va pas, on les retrouve avec En Marche, mais on les retrouve aussi avec avec tous les autres. Donc, on arrive à nouer des dialogues importants. Ouais. Et puis, y a beaucoup de nouveaux politiques, mais pas que dans La République En Marche. Il y a des ouvertures d'esprit différentes. Ça va bien.
Ouais. Macron, il aurait fait un bon patron du RAID.
Ben Macron, il fait un bon patron de la France.
Oui, c'est encore mieux. Alors. Bonne réponse. Hein. Très bien. Ben merci Caroline, merci Jean-Michel Fauvergue et bravo.